Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. Entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an, c'est le montant qui devrait être versé à Kiev. Les États membres de l'UE ont trouvé un accord de principe pour utiliser les revenus des avoirs russes gelés dans l'Union.
Reportage en Argentine où se tient aujourd'hui la deuxième grève générale depuis l'arrivée au pouvoir de l'ultra-libéral Javier Milei en décembre dernier.
Plus qu'un mois pile avant les élections européennes, mais les enjeux nationaux prennent souvent le dessus.
Les forages pétroliers en Seine-et-Marne font l'objet d'une procédure en justice lancée par la régie Eau de Paris. Explication à suivre.
Les 27 États membres de l'UE ont trouvé hier un accord de principe important, l'aboutissement de longues discussions pour utiliser les revenus des avoirs russes gelés au sein de l'Union européenne afin d'aider l'Ukraine à la fois pour la défense militaire et pour la reconstruction du pays envahi par Moscou depuis 2 ans. À Bruxelles, Jean-Jacques Herry.
L'idée, c'est qu'on ne touche pas directement aux 210 milliards d'euros d'avoirs russes bloqués en raison des sanctions européennes, c'est compliqué en termes de droit, mais que l'on va se servir dans les intérêts que ces sommes colossales rapportent. Selon le plan proposé par la Commission européenne en mars dernier, cela devrait permettre de dégager entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an, un montant qui sera donc versé à Kiev via différents mécanismes de financement européens. 90% des sommes seront affectées au soutien militaire et à l'achat d'armement, les 10% restants, eux, seront dédiés à la reconstruction et au redressement de l'Ukraine. Jusqu'à présent, seule la Belgique, qui détient l'immense majorité de ses avoirs russes bloqués, se servait dans les intérêts générés par ceux-ci. Il faut savoir qu'à lui seul, l'organisme international de dépôt Euroclear, basé à Bruxelles, concentrerait entre 150 et 200 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe, des actifs bloqués dans le Royaume et qui rapportent beaucoup, beaucoup d'argent. Ces revenus, la Belgique les taxe dans le cadre de la fiscalité ordinaire sur les entreprises. Et c'est ainsi qu'Alexander De Croo, le Premier ministre belge, a pu promettre 1,7 milliard d'euros à Kiev en octobre dernier. Désormais, cette réalité belge va devenir une réalité européenne dans tous les États membres détenant des avoirs russes. L'accord doit maintenant être formellement confirmé par les 27 États membres. Il offrira un nouveau moyen légal et juridique pour financer l'aide à l'Ukraine sur le long terme, avec une première enveloppe qui pourrait être débloquée dès juillet prochain.
Accord de principe trouvé hier, 8 mai, alors qu'en Russie, c'est aujourd'hui que l'on commémore le jour de la victoire, comme l'appellent les Russes, qui parlent de la grande guerre patriotique, la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. De son côté, l'Ukraine démonte les monuments soviétiques, un mouvement entamé il y a une dizaine d'années déjà, mais qui s'est évidemment intensifié depuis le début de la guerre en 2022. À Kiev, Virginie Pironon.
C'est dans un parc, tout en haut d'une colline surplombant le Dniepr, que se dresse, majestueuse, l'Arche de la liberté du peuple ukrainien. Son nom a changé. Avant, c'était l'Arche de l'amitié entre les peuples. À ses pieds, une statue de l'ère soviétique célébrant l'union entre les Russes et les Ukrainiens est désormais réduite à un tas de gravats. Elle est en train d'être démantelée. Direction le musée. Valentina, 68 ans, approuve la mesure.
Pourquoi parler d'amitié avec la Russie? Ils nous ont toujours tués au cours de l'histoire. Dès l'existence de l'Ukraine, la Russie a cherché à nous détruire.
Nœud papillon rose et casquette assortie, Misha, 64 ans, est venu se prendre en photo avec le monument soviétique démantelé en arrière-fond.
Je viens pour observer le démontage. J'attends avec passion quand ce truc monstrueux va démonter. Enfin, vive l'Ukraine! Et vive la France.
Anton Dobrovitch est le directeur de l'Institut national de la mémoire ukrainienne. Pour lui, ce processus de démantèlement des monuments soviétiques va permettre aux Ukrainiens d'y voir plus clair dans leur histoire.
Les Ukrainiens n'essayent pas d'éradiquer le passé commun. Les Ukrainiens essayent simplement de dire la vérité sur ce qui s'est passé, sur les crimes, les répressions, les victoires et les défaites, sur les relations entre les Ukrainiens et les Russes, afin de remettre les choses à leur place. Si le passé commun est un mensonge qu'on nous a imposé, alors, pardonnez-moi, il est à mettre à la poubelle.
Selon la mairie de Kiev, la capitale est au stade final de la dérussification des installations. Une centaine de monuments et 200 plaques commémoratives doivent bientôt être retirées de l'espace public.
Virginie Pironon. 7 mois de guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien. Et hier, le président des États-Unis a reconnu dans un entretien à CNN que des civils ont été tués à Gaza à cause de bombes américaines. Pour la première fois, Joe Biden a posé des conditions à l'aide militaire à Israël en cas d'offensive majeure à Rafah, ce qu'Israël trouve ce matin très décevant. Pour la deuxième fois depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, la population en Argentine est appelée à la grève générale aujourd'hui. Et Et des manifestations sont organisées pour réclamer l'arrêt des licenciements dans la fonction publique et la protection des travailleurs de plus en plus précarisés. En 5 mois de gouvernement, la tronçonneuse du président ultralibéral a permis d'améliorer le déficit fiscal, certes, mais elle a provoqué une hausse inquiétante de la pauvreté. À Buenos Aires, Caroline Vic.
Depuis un mois et dans tout le pays, des manifestations et des cris de colère devant les organismes publics argentins où 15 000 personnes ont été licenciées. Ce jour-là, devant la caisse de retraite, au milieu de la foule, Alberto, 40 ans.
Je dois payer mon loyer et tous les prix augmentent. J'ai commencé à travailler ici à 25 ans. Mais Milei prend une liste et il te vire, comme ça, sans scrupule. C'est un fils de pute. Le type fait ce qu'il veut. Si le peuple ne l'arrête pas, personne ne pourra l'arrêter.
Ailleurs à Buenos Aires, devant le registre national des armes à feu, Joaquin, 31 ans, récemment licencié. C'est à 7h du soir, le dernier jour ouvrable de son CDD, qu'il a appris par mail que son contrat ne serait pas renouvelé. Joaquin.
Je ressens surtout de la révolte, de la colère, car personne n'est entré en contact avec moi. Je n'ai jamais été évalué pour mon travail. Et après, il y a de l'incertitude, parce qu'avec la récession économique, c'est très dur de trouver du travail.
Un contexte difficile, en effet, avec 300% d'inflation annuelle et 50% de pauvreté. Mais Milei poursuit son plan tronçonneuse, car pour lui, la baisse des dépenses publiques est la clé de la réussite. Manuel Adorni, porte-parole du gouvernement.
Ces licenciements servent à réduire les dépenses de l'État. Le personnel non nécessaire ne touchera plus son salaire, car ses revenus sont soutenus par des contribuables qui souvent ont du mal à boucler leur fin de mois, et ce n'est pas juste.
Ces 15 000 licenciements ne sont que le début, puisque le gouvernement en a annoncé 70 000 en tout pour cette année. La réponse des Argentins et des syndicats, une manifestation massive aujourd'hui et un pays paralysé, sans transport, sans commerce et sans services publics.
Le reportage de Caroline Vic.
France Culture, il est 8h07, la suite du journal Margot Delpierre. C'est aujourd'hui la journée de l'Europe, à un mois exactement des élections européennes.
Oui, scrutin le 9 juin qui ne suscite pas un grand enthousiasme. 45%, c'est le taux de participation actuellement estimé par les instituts de sondage. Notamment parce que le Parlement européen est perçu comme une institution lointaine, pas vraiment un lieu de pouvoir. C'est aussi une élection où les enjeux européens disparaissent souvent au profit de considérations nationales, Stéphane Robert.
Le fonctionnement du Parlement européen est assez largement méconnu et aux élections européennes, de nombreux électeurs ne savent pas toujours pourquoi ils votent précisément. Par conséquent, explique le docteur en sciences politiques Olivier Rosenberg, leur motivation relève bien souvent de considérations nationales.
Les élections européennes, on les a longtemps décrites comme des élections intermédiaires qui servaient à envoyer un signal en fait pour les électeurs en attente des prochaines élections nationales. Et là, la configuration s'y prête bien puisqu'on est à peu près au milieu du quinquennat de Macron. Et donc, tout prête à ce qu'il y ait ce cadrage national, et donc un vote contestataire où on se fait un peu plaisir en sanctionnant le pouvoir en place.
Le vote sanction est donc une constante du scrutin européen. Mais là, il y a une dimension supplémentaire, selon Olivier Rosenberg, qui seul peut expliquer les intentions de vote au-delà des 30% en faveur de Jordan Bardella. Il y a, dit-il, incontestablement une dynamique du côté de Marine Le Pen et du Rassemblement National.
Après les législatives de 2022, où elle fait un score qui surprend tout le monde par la sélection du nombre de députés, là, si elle confirme avec un excellent score de Bardella comme annoncé, on est dans une dynamique en fait, dans une dynamique sur plusieurs années de prise du pouvoir, et un peu moins dans ce qui était le cas avant, c'est-à-dire un vote contestataire où on se fait un peu plaisir en sanctionnant le pouvoir en place.
Les chefs de file du Rassemblement National, eux, font campagne sur les deux thématiques, en appelant d'un côté à sanctionner Emmanuel Macron, et de l'autre, en criant à qui veut l'entendre, qu'en 2027, ils arriveront.
Les enjeux nationaux l'emportent sur les autres, mais en Europe, des changements politiques majeurs ont commencé. Il faut changer de lunettes, nous dira Jean Lemarié dans son billet politique à 8h15. L'épidémie de choléra a fait un premier mort hier à Mayotte, un enfant de 3 ans. D'après le dernier bilan, 58 cas ont été recensés. Le ministre de la Santé, Frédéric Valtou, se rend aujourd'hui sur place. La France s'est engagée à ne plus exploiter de gisements pétroliers sur son territoire à partir de 2040. Mais d'ici là, de nouveaux forages continuent d'être autorisés. 2 devraient voir le jour au sud de Paris, en Seine-et-Marne. Projet validé par les autorités publiques, mais remis en cause récemment par une procédure lancée par la régie Hauts de Paris, Camille Magnard.
Actuellement, sur la commune de Nonville, on compte 3 forages pétroliers sur une même plateforme installée dès 2012 à peine 150 mètres des premières habitations. Les voisins s'y plaignent de nuisances olfactives, sonores, de problèmes de sécurité autour de la circulation des camions-citernes et du peu de cas que l'entreprise Bridge Energy fait de leurs plaintes. Autant dire que les projets d'extension du site étaient vus d'un mauvais œil par la population et son maire Jean-Claude Belliot.
Nous avions délibéré sur ces 2 projets présentés à l'unanimité au conseil municipal contre les projets présentés.
Opposition également nourrie par le fait qu'on est là à quelques centaines de mètres d'importants captages d'eau qui alimentent les réservoirs d'eau potable de la ville de Paris, avec le risque que les forages pétroliers qui traversent la nappe phréatique ne viennent la polluer. Jean-Claude Belliot ne comprend pas comment l'État a pu donner son feu vert.
Je laisse les services de l'État faire l'analyse du potentiel du gisement et analyser également les risques par rapport aux 180 000 abonnés de Haut-de-Paris qui pourraient être impactés, c'est-à-dire ne plus avoir d'eau par ces ressources-là. Moi, aujourd'hui, ce que je dis, je ne suis pas rassuré par rapport à l'activité de l'entreprise et au regard de leurs compétences et réactivité quand il y a eu des incidents. Quand j'ai vu les rapports des services de l'Adriat, 19 points de contrôle, 12 non-conformités, dont certains points de contrôle avaient des non-conformités depuis 3 ou 4 ans qui étaient non levés. Si c'est une entreprise sérieuse, je veux bien l'entendre, je sais plus ce qu'est le sérieux ou pas le sérieux, moi c'est mon interrogation.
Jean-Claude Belliot et les habitants de Nonville placent à présent leurs espoirs dans les procédures en justice lancées par Eau de Paris, un référé pour faire suspendre au plus vite la construction des 2 nouveaux forages et un recours sur le fond pour tenter de faire annuler l'arrêté préfectoral qui les a autorisés.
Camille Magnard. Le film Un petit truc en plus, réalisé par Artus, vient de franchir la barre du 1 million d'entrées depuis sa sortie il y a une semaine. Un long métrage avec dans le casting de nombreuses personnes en situation de handicap. Film soutenu financièrement par une association engagée pour la diversité, Benoît Grossin.
Impact Film, cette association, se présente comme la première structure d'investissement dans des œuvres qui permettent de changer le regard des spectateurs en faisant évoluer notamment la représentation des personnes handicapées, explique Olivier Sabi, son cofondateur.
Moins de 1% des personnages à l'écran, au cinéma et à la télévision, alors que dans la population française, ce sont entre 10 et 20% qui sont handicapés. Et donc, nous, on va travailler à renforcer la part des personnes handicapées à l'écran, non pas en plaquant des stéréotypes sur le handicap, mais en travaillant avec les personnes handicapées, à la fois devant, les acteurs et les actrices que l'on voit à l'écran, mais aussi derrière la caméra, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui produisent les films pour permettre peu à peu de faire évoluer ces représentations.
Et tous les ingrédients sont bien réunis dans le film Un petit truc en plus, selon lui, et participe par la légitimité aussi de son auteur au succès en salle.
Ça fait très très longtemps qu'il travaille sur ce sujet Artus et qu'il rencontre énormément de partenaires. Par exemple, il a travaillé avec une agence de casting spécialisée dans les acteurs et actrices handicapés. Il y a une vraie sincérité et un vrai engagement de sa part. C'est ça, je pense, que les gens en salle ressentent quand ils vont voir son film, qu'il y a une certaine réalité dans la façon d'interagir, dans la façon de représenter des personnes handicapées dans des scènes du quotidien.
Depuis sa création en 2019, l'association Impact Film a coproduit 25 longs métrages, documentaires et fictions sur le handicap, mais aussi sur la place des femmes, des seniors ou des personnes issues de la diversité sociale à l'écran.
Encore un record mensuel de chaleur sur Terre comme à la surface des océans en avril. C'est le dernier bilan de Copernicus, l'observatoire européen. Le mercure s'affole depuis juin 2023, en partie à cause d'El Niño, phénomène climatique naturel récurrent qui réchauffe la température des océans. Il commence à s'essouffler et le phénomène miroir de la Niña devrait même refroidir l'eau du Pacifique d'ici la fin de l'année. Pour autant, les records ne devraient pas s'arrêter, selon Julien Nicolas, climatologue membre du service changement climatique de Copernicus.
En termes de température moyenne globale, il est probable, effectivement, que nous n'allons pas atteindre des niveaux records comme nous avons connu l'an dernier au cours des prochains mois, lorsque les conditions basculent vers des conditions La Niña en fin d'année. C'est ce que les modèles indiquent pour la deuxième partie de l'année. Phénomène La Niña, donc, qui est associé à des températures de surface de l'océan plus faible que la moyenne, donc plus froide, dans le Pacifique équatorial. Après, en termes d'un point de vue plus régional, par exemple, est-ce qu'en Europe, on peut s'attendre à un répit ? Pas nécessairement, et probablement non. Comme le lien entre El Niño et les événements par exemple les vagues de chaleur en été, sont assez faibles. On l'a vu par exemple l'an dernier, donc en 2023, la température moyenne globale a atteint des niveaux records. Pour autant, l'été en Europe n'a pas été le plus chaud. Et les années précédentes, donc les trois années précédentes, ont été marquées par des conditions La Niña. Et pour autant, nous avons vu des vagues de chaleur à répétition chaque année frapper le continent européen, par exemple.
Le climatologue Julien Nicolas, des propos recueillis par Diane Berger. Météo France prévoit une journée plutôt ensoleillée sur la plupart du pays. 17 degrés cet après-midi à Cherbourg, 21 à Paris, jusqu'à 24 degrés à Bordeaux. 8h40.